C'est maintenant au tour de Marianne Alphand de s'entretenir avec Georges Didier Huberman pour cette ronde qui commence. Nous avons fait allusion à la ronde d'Ophuls dans ce texte préliminaire au programme et ce n'était pas tout à fait un hasard. Donc voilà, je ne sais pas où ils sont, mais... Voilà, oh pardon, je ne vois rien. Voilà. Alors, bien sûr, Georges Didier Huberman a publié en 2013, j'extrais de ses publications au moins Sur le fil, bien sûr, Chez Minuit et Phalène, Essai sur l'apparition 2. Et Marianne Alphand, Marianne, toi, tu publiais aussi en 2013 ces choses-là chez Paul, ton éditeur. Je vous laisse converser tous les deux.
Quand j'ai vu, j'avais reçu par Facebook l'annonce qu'il y avait ce soir à la Cinémathèque une soirée exceptionnelle où on projetait Mes petites amoureuses de Stache et ensuite entretien entre Ingrid Cavan et Jean-Jacques Schoul, je me suis dit alors là on n'a aucune chance d'avoir le moindre public. Je ne suis pas Ingrid Cavan, mais c'est vrai que, Georges, je crois que tu vaux 10 Jean-Jacques Schoul, donc le public est là. Mais j'étais très embêtée quand j'ai vu l'annonce de cette soirée. Alors, comment est-ce qu'on... Bon, on n'a rien préparé, ou très peu. On s'est dit qu'on allait se fier peut-être à notre amitié ou notre connaissance l'un de l'autre. Le thème... Ce sur quoi on s'est mis d'accord, en fait, c'est une espèce de croisement. C'est-à-dire comment quelqu'un qui vient des images, un historien de l'art, qui vit dans les images, comme Georges Didier Huberman, se pose des questions d'écriture, se pose des questions qui relèvent, qui sont celles de l'écrivain, et d'une autre... réciproquement, si je puis dire, comment ceux qui vivent dans les mots sont du côté de la littérature, peuvent être saisis, relancés, électrisés par les images. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça ouverture aussi, c'est-à-dire comment l'histoire de l'art s'ouvre à quelque chose et comment, inversement, la littérature peut s'ouvrir aussi à quelque chose qui n'est pas tout à fait de son, au fond de sa zone. Voilà. Alors, Georges, comment commence-t-on? On commence peut-être par... est-ce qu'on commence par ce... tu me disais l'autre jour, parce qu'on s'est vu rapidement... Genre, je reviens de Beyrouth où il montait une exposition, donc bon, on n'a pas pu beaucoup comme préparer. Tu me disais que quelqu'un qui est dans le monde de l'histoire de l'art se dit parfois, devant une image peut-être, ou devant un réseau d'images, ça, c'est un problème littéraire. Alors donc, peut-être peux-tu parler de ces images qui font que tu te dis que c'est un problème littéraire.
Bon, d'abord, je constate que toi, tu as apporté un livre à moi. Moi, j'ai apporté un livre de toi. Ça va. Il y a une sorte de croisement, bien sûr. Moi, déjà, ce qui m'intéresserait de savoir, de ton côté, c'est comment tu es arrivé à ce livre sur Monet. Toi qui es parti justement d'un... évidemment, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, on comprend bien que les questions de territoire demandent à être balayées. Hein. Ronald Klapka, c'était un écrivain autant qu'un critique. Il y a Blanchot avant, il y a Benjamin avant, tout qui ont été évoqués. Il y a une sorte de porosité et dont toi, tu es aussi un exemple. Puisque, si j'ai bien compris, tu viens du roman, tu viens de la question littéraire, mais particulièrement du roman. Moi, pas du tout, comme tu le sais.
Mais alors, tu commences à tricher, là. Tu commences à tricher, tu commences avec un livre de moi, alors que je t'ai posé une question très précise.
Non, mais je répondrai après. D'accord. Mais je t'en pose une entre-temps. je trouve très intéressant. Enfin, il faudra peut-être que tu répondes à un moment donné, là. C'est très fascinant de savoir comment quelqu'un donc, qui est dans ce monde de la littérature finit par écrire un très gros livre sur Monet avec bon, quelque chose qui a à voir, j'ai pas eu le temps de le relire, mais quelque chose qui a à voir avec la question du roman, je pense, la question du personnage, en fait. Et puis, ben, j'ai relu la fin, là, c'est magnifiquement littéraire, quoi. C'est complètement... tu parles à la fin d'un paysage qui s'efface. Donc... moi, j'ai suivi un trajet symétrique, apparemment. C'est-à-dire que je suis parti de problèmes dits de sciences humaines. Et tout à l'heure, Sylvie a évoqué cette idée qu'on ne peut penser que poétiquement. Mais qu'est-ce que ça serait bien si elle avait raison? Je pense malheureusement que alors ce qu'elle dit est probablement vrai dans le domaine littéraire, mais il n'y a pas que le domaine littéraire. Donc moi je viens d'un domaine où les gens pensent pas souvent poétiquement. C'est bien pourquoi d'ailleurs, puisque l'allusion c'était une allusion à au texte magnifique de Hannah Arendt sur Benjamin, sur le pensée poétique de Benjamin, mais on sait bien qu'il a eu du mal à se faire comprendre, y compris de gens assez proches. Donc voilà, c'est l'enjeu, il est compliqué. Alors moi, je suis donc parti d'une passion pour les images et a priori, à part un très grand amour de la poésie, mais je me suis très vite aperçu que l'histoire de l'art elle-même, en tant que science humaine, c'est un genre littéraire. C'est pas seulement une discipline littéraire, c'est une discipline philosophique, c'est une discipline philologique, mais c'est un genre littéraire. Pline, l'ancien, c'est un genre littéraire, plutôt encyclopédique, mais c'est un genre littéraire. Vasari, c'est un genre littéraire. Une sorte d'épopée nationaliste de l'art florentin. Panofsky, c'est un genre littéraire plus aride, plus kantien, plus déductif. Même quand on fait un catalogue, même quand on croit parler des œuvres d'art ou des choses visibles de façon soi-disant objective, en fait, on fait des choix littéraires. Bon, c'est ça qui m'est apparu de plus en plus fortement.
Oui, alors, il faudrait quand même qu'on voit quelques images. Donc, parlons de choix littéraire. Parlons de... Quand tu dis on fait un choix littéraire, alors, ce qui est caractéristique, disons, de tes livres, et je pense que tous ceux qui te lisent et, en sont conscients, c'est que les images dont tu parles, les images de tes livres, sont des images très, très insolites pour l'histoire de l'art. Elles ne sont pas, je dirais, elles ne sont pas canoniques. Et quand on regarde j'avais fait une fois une petite liste d'images qui apparaissaient, de thèmes qui apparaissaient dans tes livres. Est-ce que je vais retrouver ça? Non, bien sûr. Je devrais retrouver ça? Non. Alors, je vais le retrouver.
Est-ce que je peux t'aider?
Mais non, tu sais pas ce que je cherche.
Non, mais je te tiens le micro, par
oui,
exemple.
Non, attends. Ce sont des choses dont j'ai essayé de parler une fois quand il y a eu cet hommage qui t'était rendu par l'Institut allemand d'histoire de l'art en juin dernier. J'avais fait une espèce de... ça, d'inventaire des objets qui apparaissent dans tes livres. Donc, dalles funéraires, tombeaux, taches, sang, détails, annonciations, mannequins, photos d'abattoirs, reliquaires, contractures de pieds beaux, empreintes, lucioles, chambres, crânes, danseurs, photogrammes de films sur les camps, fantômes, pointes de flèche, chronophotographie, élevage de poussière. Bon, les objets auxquels tu t'intéresses sont des objets d'une variété très extraordinaires et très frappantes, et qui ont d'ailleurs, je dirais, je pense sur le lecteur, un effet romanesque. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de monde qui s'ouvre, et dans la mesure où ces objets, ces choses dont tu parles, sont complètement énigmatiques, on ne sait pas ce qu'elles viennent faire. Quand on feuillette le livre, on voit des choses, et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Il y a une espèce de plaisir, je dirais pas comme de lecture de roman policier, mais disons un roman, oui, une lecture de roman, à voir comment tu passes d'une image à l'autre, comment elle s'enchaîne, et on s'aperçoit, j'en reviens à la question littéraire, qu'au fond, dans l'agencement des images, tu produis quelque chose comme des phrases. Est-ce que tu le sens ?
Oui, tout à fait, bien sûr. Je fais souvent des montages d'images avant de commencer d'écrire, par exemple. Donc ce sont des phrases, bien sûr. Un montage d'images, c'est une façon de phraser visuellement. Alors ce que tu dis, je vais laisser de côté peut-être, parce que là je suis très mal à l'aise avec ce mot de roman. On peut en reparler, mais on peut repartir de ce que disait Sylvie quand même tout à l'heure, puisqu'il a été question de Benjamin. Dans cette idée de pensée poétique, je me souviens très bien que la façon dont Hannah Arendt introduit ce thème du pensée poétique chez Benjamin, elle dit, en fait, Benjamin a été très fortement influencé par le surréalisme. Donc, on peut partir de là, du surréalisme de Nadja, de l'utilisation de la photographie dans le surréalisme. Cette chose extraordinaire dans la revue Documents, qui est qu'il y a des documents, et que la façon dont ils sont phrasés, dont ils sont montés les uns avec les autres, ça donne un objet extraordinaire, tout à la fois lyrique, enfin poétique, et un objet de connaissance. Moi, c'est exactement ce qui m'intéresse. Benjamin, c'est ça. C'est ce penser poétique, c'est un penser qui... Alors, pourquoi il y a des choses aussi différentes ? Il y a peut-être donc une généalogie surréaliste, mais étant bien entendu que ça vient de plus loin encore, ça vient du romantisme allemand, par exemple. Les collections de Goethe, vous n'avez qu'à regarder, si on fait la liste de ce que Goethe collectionnait, on a quelque chose d'encore plus délirant que ce que tu viens de dire. C'est phénoménal. Il y a des paniers en osier, il y a des bouts de statues romaines, il y a des cailloux, il y a des intailles, il y a des jouets d'enfants, comme plus tard Benjamin s'y intéressait. Il y a n'importe quoi, c'est incroyable. Il y a des papiers marbrés, il y a des... Voilà. Donc, il y a cette idée d'un savoir, ce que Caillois a appelé plus tard un savoir diagonal, je crois, ou transversal, j'ai oublié comment il disait. C'est-à-dire une ouverture du champ. Mais cette ouverture du champ, elle est également chez Warburg. J'ai des modèles.
Oui, tu as des modèles. Alors je sais que, quand je parle de romanesque, il faut que je précise un peu. Quand je dis romanesque, c'est parce que, justement, tu viens de parler du surréalisme. Quand on lit, comme je viens de le faire, la liste des objets qui sont les tiens, dont tu parles, que tu analyses, que tu étudies, etc., que tu enchaînes, on a l'impression, ça pourrait être comme quand on va, comme faisait Breton au Puce, trouvant des choses et les ramassant et les collectionnant. Pourquoi est-ce que c'est romanesque, une chose, un gant, parce qu'il y a derrière une histoire. Alors tu ne la racontes pas, cette histoire, tu en fais autre chose, tu détournes ce que pourrait être un romanesque. Mais il y a, pour les lecteurs de romans, il y en a beaucoup dans cette salle sans doute, moi j'en suis, une espèce de fonction romanesque. Alors je pense à un exemple d'un objet que tu décris dans ce livre qui s'appelle Phasme, où tu es dans un marché de Noël à Rome, et il y a des petits objets très très bizarres vendus dans des paniers, sur des étals, etc. Et cette trouvaille, donc, t'arrête et déclenche quelque chose. Bon, ça, tu peux peut-être en dire deux mots.
Tu veux que je raconte l'histoire ?
Tu non. peux en dire deux mots, oui, tu peux raconter.
Bon. je me balade au marché de la Befana à Piazza Navona à Rome. C'est entre décembre et janvier, donc là où cette place est d'habitude très très belle, très 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 artistique, là il y a plein de stands de populaires, de gens qui vendent beaucoup de bonbons, beaucoup de jouets, beaucoup de choses populaires comme ça. Avec ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que j'aime appeler l'anachronisme des voilà, donc il y a Goldorak et puis il y a Pinocchio. Il y a des bonbons très traditionnels, par exemple ce sucre noir qui ressemble à de la lave, qui est magnifique chez les Italiens. Et puis Mars, quoi, des Twix, tu vois ce que je veux dire. Et dans tout ce mélange, il y a évidemment des... mais c'est très benjaminien, hein, c'est vraiment, évidemment. Donc, il y a des artisans de napolitains qui viennent vendre les petites figurines de la crèche. Donc, il y a la Vierge, l'enfant, l'âne, le bœuf, les rois mages. Et puis, il y a vaguement des représentations un peu, si tu veux, des petits métiers de Naples. Donc, il y a un fenouil, il y a des... Et puis, il y a un objet mais extraordinaire, mais totalement extraordinaire. Pour moi, pour quelqu'un qui s'intéresse avec, après ou contre Rosalind Krauss, peu importe, à la question de l'informe, en tout cas avec Bataille, je tombe sur un objet informe. Donc, il a cette taille, et il est rose... Il est horrible, il est informe, comme ça, c'est en terre cuite rose. Et bon, qu'est-ce que ça a à faire, ça, à côté du Christ, enfant, et de la Vierge ? C'est une représentation viscérale. Moi, je sais immédiatement d'où ça vient. Je le sais, immédiatement. Quand vous êtes historien de l'art et que vous avez le courage, parce que les historiens de l'art n'ont pas en général ce courage, d'aller jusqu'au fond des musées étrusques, les dernières salles sont généralement dédiées aux ex-voto. Les étrusques, donc au 4e siècle avant Jésus-Christ, au 2e, au 3e, ils faisaient des ex-voto viscéraux. Ils représentaient les viscères de l'homme en grandeur naturelle, en terre cuite rose. Ah, donc c'est des objets comme ça. voilà, c'est exactement le même objet, sauf que c'est petit, mais c'est vraiment la même forme, le même matériau, exactement la même couleur. Ça serait peut-être même le même pigment. Vraiment, c'est incroyablement proche. Donc, la question de l'historien de l'art, qu'est-ce qui s'est passé entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le stand de Piazza Navona en l'an 2000 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le link ? On ne voit que des missing links. Où est le lien ? Comment faire l'histoire de ça ? Pour moi, c'était un exemple parfait de ce qu'on a, Warburg appelait la survivance. Voilà, c'est un problème. Alors, est-ce que c'est un problème qui aboutit à une forme romanesque ? Je l'ignore totalement. Je sais par où, moi, je dois passer pour raconter cette histoire. Je dois retourner à Naples. Et puis, je dois m'intéresser au rapport des Napolitains aux viscères, donc qui sont très, très importants, aussi bien pour la divination que pour la cuisine. Vous avez des rues entières de Naples avec tous ces viscères qui pendent comme ça. Voilà, il y a un lien. Je ne sais pas si on ne s'éloigne pas un peu du sujet de la littérature, mais probablement si je considère, je prends appui hein, sur ce que Sylvie a introduit tout à l'heure, hein, parce que bien sûr ça m'est très cher, l'écriture de Benjamin, qui pour moi est un grand écrivain. Je vois très bien, par exemple, dans l'enfance berlinoise, qu'il y a une façon de se raconter, il raconte, sans jamais être le personnage principal de ce qu'il raconte. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Et c'est là où le rapport entre littérature, une littérature où le je n'est pas le maître, même si c'est totalement autobiographique, une littérature où ce qui compte, c'est précisément qu'est-ce que c'est le regard d'un enfant sur Berlin. Et c'est une question de regard. Et il arrive à écrire ça. Et il arrive à l'écrire tout en... On sait très bien que c'est son regard, mais il arrive à l'écrire sans jamais être le héros de son roman. Donc c'est pour ça que je... Alors, aussi, je pourrais te dire les choses dans un autre sens, c'est que mon rapport à la littérature est beaucoup plus fortement ancré dans la poésie. C'est-à-dire qu'il y a... et ce n'est pas hors sujet par rapport à la question qu'on pose, c'est-à-dire que les grands, pour moi, la grande figure, c'est pas encore Diderot, quoique c'est sublime, mais c'est Baudelaire, bien sûr. Donc Baudelaire, pour moi, c'est tout part de Baudelaire. Donc là encore, c'est Benjamin n'est pas très loin, mais tout part de Baudelaire, c'est-à-dire la façon dont Baudelaire non seulement parle des œuvres d'art, mais moi je relis Baudelaire très 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 souvent pour savoir comment regarder. Et toutes les évocations qui ont été faites, vous avez parlé de tous ces poètes qui ont parlé de Giacometti, par exemple, avec Genet en plus. Je me sens très proche de ça. En même temps, puisqu'on est dans un lieu où c'est la littérature qui fait corps social ce soir. Donc, pour autant, il y a des conformismes partout. Donc il y a un conformisme dont je me méfie beaucoup, c'est le type écrivain qui va vous parler d'une œuvre d'art. Ça peut être très très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est écrivain, il va voir des belles choses... donc, bon, quand c'est Genet avec Rembrandt, c'est juste extraordinaire. C'est une leçon. Mais alors, il faut que ça soit un bon écrivain.
Contre-exemple, alors. Donne-nous un contre-exemple.
Un contre-exemple, Siri Hustvedt. Je ne sais pas comment on prononce son nom. La femme de Paul Auster. J'aime beaucoup Paul Auster.
Oui.
Mais
elle parle de quoi,
hein? Elle a fait des livres sur la peinture. C'est délicat, c'est cultivé, c'est littéraire dans un sens. C'est pas Genet, quoi. Voilà. Donc la question avec la question, c'est comment te dire. Par exemple, quand j'ai travaillé sur Frangelico, comme tout historien de l'art ou iconologue, ben, je travaillais avec ce que j'étais sûr que Frangelico était versé dans la théologie dominicaine, puisqu'il était dominicain. Donc j'ai lu la littérature, les louanges à la Vierge, qui est une littérature théologique, mais aussi poétique, hein, très très importante. Donc c'était une sorte de source, donc ça c'est tout à fait normal. En revanche, quand j'ai dû travailler avec des artistes vivants, j'ai fait un choix qui était un choix également à la fois, entre guillemets, poétique et polémique. C'est-à-dire ne pas avoir une attitude de jugement et de critique d'art. Et ne pas croire que je vais être l'historien de l'art de Hantaï, par exemple, ou d'un artiste vivant. Et alors, tout ce qui m'était... tout ce que je pouvais faire, c'est de chercher le style littéraire dans la littérature. À un moment où, tu vois, je me prends Évidemment, toute personne qui écrit est un écrivain ou un écrivain, mais voilà. Donc, par exemple, parmi Gianni, les œuvres en poussière grise, tout ça, eh ben, j'avais relu Rilke, et ça, Rilke permet de regarder parmi Gianni, c'est clair. C'est-à-dire les mots de Rilke, je les ai convoqués de façon à ce qu'il vraiment, à ce qu'il regarde cette œuvre. Donc ça, c'est une stratégie un peu spéciale.
C'est une stratégie très littéraire, oui.
Oui. C'est une stratégie, oui.
Et pourquoi as-tu ce souci-là ? Enfin, comment le comprendre ? Le fait de ne pas vouloir parler de, je ne sais pas, bon, oui, Antaille ou Pascal Convert, comme un critique, comme un, mais en parler autrement.
Parce que le discours de la critique aboutit à un jugement, ou le discours de l'historien, en plus c'est délicat quand tu es dans le contemporain, aboutit à placer les choses avant, après, etc. Et que, en fait, moi je suis véritablement dans le sujet que vous proposez, c'est-à-dire j'essaye de mettre des mots sur ce que je regarde. Donc, je peux faire une précision peut-être, parce qu'on regarde avec tout. On regarde avec tout son corps et on regarde avec ses mots. Tu es d'accord ? Et alors, quand j'ai commencé de travailler, il y avait deux tendances théoriques. L'une qui était très axé sur les mots, c'était la sémiologie structurale, les choses comme ça. Et puis l'autre qui était axé sur une sorte de mutité devant l'œuvre, qui était plutôt la tradition phénoménologique. Et que faire entre les deux ? Alors, moi, ce que je peux dire très simplement, c'est que ce que je peux attendre d'une, mais pas seulement d'une œuvre d'art, je dirais d'un événement visible en général, hein, c'est qu'il m'enlève tous mes mots. Donc on a tous quelquefois ce sentiment, c'est sublime. Donc il y a le mot sublime qui sert quelquefois à dire, mais on est sans mots, quoi. Alors la phénoménologie peut tirer parti de ça et aboutir à une sorte de mythification ou de sacralisation de cette expérience pratiquement muette du monde. Enfin, il y a quelque chose, par exemple dans la lecture de Merleau-Ponty sur Cézanne, enfin, qui pourrait aboutir à quelque chose comme ça, demeurer sous le pouvoir du monde muet de la pure sensation, par exemple, enfin, tu vois, d'un côté. De l'autre côté, la sémiologie qui a déjà tous les mots prêts et qui voilà, mais qui c'est pas fatalement impertinent, mais en même temps, voilà. Et entre les deux, je pense qu'il faut considérer les deux choses, c'est-à-dire ce moment de où le langage fait défaut, et tant mieux. Et à partir de ce moment de mutité, ce que Agamben appelle l'enfance, retrouver les nouveaux mots et les nouvelles phrases, refaire des phrases. Donc c'est entièrement un problème littéraire. De bout en bout, c'est un problème littéraire. Une chose, je vais publier dans quelques semaines, je crois, un livre qui s'intitule « Essayez voir ». Et en fait, c'est basé sur, enfin, l'une des analyses d'œuvres, c'est une œuvre de James Coleman, un artiste contemporain, que j'avais placé dans mon exposition Atlas au Reina Sofia à Madrid. Et c'est une œuvre très particulière dans cette exposition. C'était la seule dont je ne pouvais rien dire, mais vraiment rien dire. J'avais choisi cette œuvre, mais je ne savais pas pourquoi.
Tu l'as dans ton...
Oui. Vous pouvez... Oui, on s'est dit que j'allais apporter mon ordinateur et que si on avait besoin d'une image, eh bien, je pourrais montrer.
Ah. Donc, voilà.
C'est bizarre parce que la flèche ne marche pas. Comment ça se fait? Alors, Coleman. Voilà, c'est cette œuvre. Donc, il y a un écran. Ça a l'air d'être un écran vidéo. Ça a l'air d'être une vidéo, mais ça ne bouge pas. Il n'y a pas de titre. On ne sait absolument rien. Et vous ne pouvez absolument rien demander à l'artiste. Quand je lui ai demandé, mais vous ne pouvez pas me dire quelque chose, quoi? Qu'est-ce que c'est, quoi? D'où ça vient? Il m'a dit, votre question, c'est ça que l'œuvre prétend susciter. Voilà. Donc, ne sachant rien, dans cette exposition, j'ai montré ça sans savoir pourquoi. C'était important, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver des mots. Avec rien, aucune base, ni iconographique, ni historique, rien du tout. Et là où je suis arrivé, évidemment, ça c'est grâce à la littérature. C'est la formule de Beckett, « How try say ?»« Comment essayer dire ?» Je pense qu'à partir du moment où vous ne faites que essayer de dire, vous êtes encore dans une critique traditionnelle. Enfin, mais essayer de dire, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et dans cette phrase qui vient de Cap au Pire, il dit juste après, clenched, comment on dit, traduit en français, oui, clos. Il dit, yeux clos écarquillés. C'est tellement beau. Donc voilà, essayez de dire avec rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'iconographie, il n'y a pas de. Je n'ai pas envie de discuter si James Coleman est postmoderne ou pas, je m'en fiche complètement. Et là, on a absolument un problème littéraire.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi cette image t'arrête. Est-ce que c'est parce que tu es complètement démuni? Est-ce que c'est aussi pour des raisons presque internes à ton parcours des images? Bon, comme si tu étais à la recherche d'images qui te résistent.
Oui, exactement. Je cherche les expériences que j'appellerais fécondes. Elles sont souvent aux extrêmes, c'est-à-dire je m'intéresse beaucoup à l'extrême ressemblance, à l'extrême dissemblance, je m'intéresse à l'extrême diaphanéité. Par exemple, James Turrell, c'est de la pure lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire? On arrive, il y a juste un rectangle de lumière. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et au contraire, par exemple, quelque chose dans l'extrême pathos. À chaque fois... Oui, ça suscite le désir. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction, là, regarder, garder, avoir des égards pour sauvegarder, le souci littéraire serait ce qui permet, en fait, d'être là-dedans. C'est-à-dire dans l'égard, en tout cas, et aussi ce que vous avez dit, le désir, bien sûr, et non pas l'illusion que regarder, ça serait garder deux fois, garder à double tour, le gardien, le gardien de prison qui dit « Ah, je te regarde ». Non, justement, essayer de... quand on écrit, on fixe quelque chose, mais essayer de donner une forme à ce qui n'est pas fixable, et surtout le fait que regarder n'est pas garder, au sens du gardien de prison, bien sûr.
Et donc, tu
c'est,
as
tout,
fait,
c'est tout l'enjeu. Hein,
tu as fait tout un livre sur quelque chose qui t'échappait.
Oui, j'ai fait la moitié d'un livre sur ce truc dont je ne sais toujours rien, puisque je suis allé voir James Coleman chez lui à Dublin, tout ça. J'ai tout essayé, mais je n'en sais rien. Et tant mieux. Enfin, voilà. Bien sûr, ça devient quelque chose. Ça devient quelque chose qui, si je devais un tout petit peu préciser, qui pose la question de qu'est-ce qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas quand on regarde. Alors, il y a le fameux exemple du canard-lapin, vous savez. Le canard-lapin, c'est une forme de psychologie expérimentale où si vous regardez d'un côté, c'est plutôt un canard, ou si vous regardez d'un autre, c'est plutôt un lapin. Il se trouve que James Coleman, peut-être je peux montrer, je dois avoir l'image quelque part. Je ne crois pas que je l'ai là. Oui, elle est là. Voilà. Il a projeté un canard-lapin. Donc, regardez à droite, c'est plutôt un canard. Regardez à gauche, c'est plutôt un lapin. Donc, cet exemple, c'est le premier exemple traité sérieusement par Gombrich dans un livre classique qui s'appelle « Art et illusion ». Moi, j'aime pas du tout Gombrich, mais il est très, très significatif. Il est très intéressant parce qu'on voit très bien qu'est-ce qu'il cherche avec ce problème d'ambiguïté de la figure du canard-lapin. Par ailleurs, il y a des développements absolument géniaux de Wittgenstein sur le canard-lapin assez tôt, mais aussi plus tard dans les investigations ou les recherches philosophiques, je ne sais plus lequel. Et c'est ça que James Coleman a lu. Donc là, je suis quand même historien de l'art. C'est-à-dire, je passe dans un problème qui a intéressé l'artiste. Donc ça pourrait être une source théorique de son travail, le canard-lapin. Je sais que c'est un... Donc il a fait cette œuvre, il est lecteur de Wittgenstein. Mais j'avance dans Wittgenstein. Alors Wittgenstein a cet avantage considérable et cette intelligence considérable par rapport à Gombrich, c'est que Gombrich, il fait du problème un problème presque de vocabulaire. Hein. C'est soit canard, soit lapin. Comme pour Panofsky, c'était soit Judith, soit... c'est laquelle l'autre ? Tu sais, il y a les deux femmes qui coupent la tête. Peu importe.
Salomé,
voilà. Soit Judith, soit Salomé. Alors, Wittgenstein a une position bien plus extraordinaire qui concerne la structure de la phrase, c'est-à-dire la grammaire. Donc, il est déjà un bien plus loin que Gombrich. Et puis, dans les recherches philosophiques vers la fin, il va encore plus loin, et là c'est extraordinaire. Il dit, mais finalement, quand je ne sais pas trop ce que je vois, ben je peux tout simplement faire un geste. Ça c'est extraordinaire. Hein. Ça correspond aussi à une sorte de... Mais je vous assure, ça concerne la littérature, là, ce que je dis. C'est quelque chose qui est très important dans la vie de Wittgenstein. Il avait comme ami à Cambridge un Italien et un économiste italien qui s'appelait Sraffa. Cet homme, Sraffa, c'était un homme de gauche, un économiste antifasciste. C'est lui qui a sauvé les carnets de Gramsci. Donc c'est quelqu'un de très important, à tout point de vue. Et un jour, ils avaient l'habitude de discuter. Et les recherches philosophiques, au début, si vous lisez, il y a des remerciements. Il dit, celui à qui je dois le plus de suggestions philosophiques, c'est Sraffa. Tu te demandes pourquoi ? Parce que Sraffa a écrit des livres sur la question de la valeur de la monnaie, de la marchandise. Il a fait des choses presque qui préfigurent Guy Debord, par exemple, sur la question de la marchandise. Mais on ne comprend pas très bien le lien avec Wittgenstein. Et alors, il y a une histoire que Wittgenstein racontait, c'est que la clé d'une mutation philosophique profonde chez lui, c'est lorsque dans un train, ils discutent et Wittgenstein parle encore de la grammaire, de la phrase. Et Sraffa lui dit qu'il connaissait Naples. Donc Naples, ce n'est pas seulement les ex-voto dont j'ai parlé, mais Naples, c'est le geste. Naples, c'est l'endroit où un auteur du 19e siècle qui s'appelait Andrea de Giorgio a écrit un livre extraordinaire où il montre que là où survivent les gestes des dieux antiques tels qu'ils sont peints sur les vases grecs, c'est le lumpen prolétariat de Naples qui les a. C'est là où on les trouve. Et Pasolini, il dit exactement la même chose. Pour Pasolini, Ninetto, il vient de l'Antiquité. Et donc Sraffa lui dit, et ça, c'est quoi la grammaire de ça? Il fait un geste napolitain, je ne sais pas lequel. Et là, Wittgenstein est bouleversé et il commence à se dire, devant cette ambiguïté du voir, il faut peut-être un geste. Et il parle aussi de phrasé. La musique est là derrière. Tu sais, quand tu entends un phrasé musical, tu fais un geste. Et Wittgenstein dit, c'est peut-être ça la clé. Et la clé, ça serait donc le phrasé, en tant que geste de mots. Non, je fais une hypothèse là.
Oui, de toute façon, l'écriture, il y a dans l'écriture, il y a un geste, il y a quelque chose de très physiologique. Hein. Barthes en parle beaucoup dans le degré zéro de l'écriture. Sur cette question, ce qui, au fond, différencie très souvent un écrivain d'un autre, ce qui rend un style très, très compréhensible, et quelquefois, on le repère, mais on ne saurait pas véritablement l'analyser, sauf quand on se glisse dedans et quand on l'imite, comme par exemple Proust l'a fait danser à la manière d'eux, qui était une façon de s'incorporer un style. Mais un style, une forme d'écriture, une phrase, c'est un geste. Enfin, il y a une espèce de physiologie derrière. Hein. Donc,
je suis tout à fait d'accord.
Voilà.
Je peux même enchaîner là-dessus, oui. Si tu veux. C'est qu'une des choses qui m'a le plus... ça m'a beaucoup frappé en lisant des auteurs phénoménologiques comme Binswanger ou Pierre Fédida, par exemple. Binswanger parlait d'un style d'apparition. Par exemple, il disait un fou, c'est pas quelqu'un qui a un défaut de perception du monde, c'est quelqu'un qui a un style particulier de perception du monde. Donc, la notion de style était tout à fait au centre. Donc, ce qui me semble être la plus belle chose de la tradition phénoménologique, et qui n'est pas toute la tradition phénoménologique, parce qu'il y a beaucoup de phénoménologues qui, devant... C'était un peu le cas de Maldinet, bien que j'aime énormément ce qu'il a écrit, mais souvent Maldinet pouvait à peu près dire les mêmes phrases devant une mosaïque de Ravenne et devant une aquarelle de Cézanne. Donc je me disais, en l'écoutant, puisque j'ai été son élève, je me disais, mais... Il est en contradiction. S'il veut être phénoménologue, il ne peut pas dire la même chose de deux choses si différentes. Il faut respecter le style de l'apparition. Et ça, par rapport à ce que tu dis de Proust, moi, si le phasme est un animal un peu qui me plaît, c'est parce qu'il se fond dans le style d'apparition du milieu où il vit et dont il se nourrit. Le phasme ressemble à l'arbre auquel il est attaché. Et alors moi, je me sens très souvent un phasme. C'est-à-dire, il fallait trouver un style d'écriture qui puisse correspondre à cet homme très étrange, dublinois, donc Joyce Beckett, qu'est James Coleman. Voilà.
Oui, tout à l'heure, quand j'évoquais cette histoire de ce petit objet que tu découvres à Rome dans les et qui renvoie à des objets divinatoires d'ailleurs, hein, étrusques. Cette histoire, tu la racontes dans un livre qui s'appelle Phasme, hein, et qui est littérairement très frappant parce que c'est une suite de textes qui sont de formes et de formes littéraires très différentes. C'est-à-dire comme si tu essayais toujours des formes pour parler d'objets qui sont très différents, très divers, hein, dans ce livre. Bon, j'ai évoqué cette histoire de ce petit objet totalement improbable, mais il y en a d'autres. Et donc, on sent ça chez toi. D'ailleurs, ton dernier livre, où est-ce qu'il est là? Je l'avais sur mes genoux. Eh bien, qu'est-ce qu'il est devenu ton... Ah oui, il est là. Phalène, essai sur l'apparition. Hein, c'est-à-dire ce qui te fait travailler aussi, c'est la façon dont les choses apparaissent et qu'est-ce qu'elles produisent. Finalement, on est dans cette chose qui est tellement formidable à la fois pour les écrivains et puis pour quelqu'un comme toi, c'est-à-dire c'est l'effet du visible. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça remet en question? Quand on est saisi, quand on est immobilisé, quand on est foudroyé, quand on est transporté, chose d'ailleurs dont ne parlent pas en général les historiens de l'art, c'est-à-dire la question de l'enthousiasme, de l'affect, du bouleversement, de l'émotion, bon, ça c'est plutôt rangé, c'est mis de côté, et on parle de voilà, les références, l'histoire de l'objet, comment ça s'inscrit dans des recherches qui correspondent à tel siècle. Mais ce qui t'intéresse, toi, manifestement, même si tu ne parles pas de transport, d'enthousiasme, etc., tu prends l'émotion presque à son degré zéro, à son degré de saisissement, de stupeur et de désarroi, en quelque sorte. Je n'ai rien à dire. Et c'est à ce moment-là que ça commence, que le travail commence.
Alors, maintenant, je vais ajouter une autre dimension. Il y a ce désarroi, donc que faire? Une chose qui m'a beaucoup frappée en étudiant la façon dont travaillaient les historiens de l'art, parce que ça m'a intéressé d'un point de vue épistémologique. Comment travaillent les gens qui disent la vérité sur l'art, soi-disant? Donc comment ils travaillent? Donc, j'avais été frappé.
T'as un air méchant tout de suite.
Oui, je suis un faux gentil, c'est vrai. Donc, ça m'avait frappé, par exemple, il y a très longtemps, à quel point, lorsque Panofsky parle de l'allégorie de la prudence, qui est un très très bel article, par ailleurs, mais il en parle vraiment comme s'il avait devant lui, non pas un tableau du Titien, mais une gravure ou quelque chose purement noir et blanc, et ça vient aussi du mode de travail des historiens de l'art, puisque j'ai passé un an dans l'endroit canonique de l'histoire de l'art de la Renaissance, c'est la Villa Itati, la Villa de Berenson à Florence, et il y a une gigantesque photothèque, mais elle est toute en noir et blanc. Et j'ai su bien plus tard, après avoir fait cette critique mais pas hargneuse, hein, de Panofsky, parce que je l'admire infiniment, mais je me disais c'est comme s'il avait parlé d'une photo ou d'une gravure mais pas d'un tableau du Titien, et en particulier ça se manifeste par le fait que une grande partie de la surface du tableau, qui est le fond du tableau, qui a l'air noir sur les photos, n'est pas du tout pris en compte. J'ai appris bien plus tard qu'en effet, Panofsky n'avait pas vu le tableau quand il a écrit ce...
Et où est-il, ce tableau? Il aurait pu le voir facilement, ou
il aurait dû faire un voyage. Oui, non, c'est pas
il n'est pas dans une collection privée?
Non, pas du tout. Je ne sais plus où il est là, mais oui. Pas du tout. même des gens extrêmement littéraires, parce que c'est, si on parle ici en France, à Paris, et aussi pour ma génération, de quelqu'un qui a écrit de façon littéraire sur ce qu'il voyait, c'est d'abord Barthes, bien sûr, et comme une sorte de disciple de Barthes direct sur le plan de la peinture, c'est Jean-Louis Schaeffer. Mais j'ai senti à un moment donné, j'aimais beaucoup le livre de Jean-Louis Schaeffer sur le déluge d'Uccello. Et ayant vécu un an à Florence, j'avais ce livre avec moi. C'était d'ailleurs le seul livre en langue française que j'avais avec moi. Donc ça veut dire que j'avais beaucoup d'admiration. Mais je me suis aperçu que ce livre avait été probablement écrit devant une carte postale. Tu vois ce que je veux dire ? Ou devant un livre d'art. Alors, intervient là un élément qui me semble, en tout cas pour moi, c'est juste fondamental. Mais là aussi, c'est très benjaminien. Benjamin, dans l'article auquel je reviens très souvent, qui s'intitule « L'auteur comme producteur », il dit, voilà, il y a un élément essentiel. Là aussi, c'est le surréalisme. Il y a un élément essentiel qui concerne la position de l'écrivain. L'écrivain aujourd'hui, dit-il en 1934, dans un contexte antifasciste à l'époque, il dit l'écrivain d'aujourd'hui doit rompre les barrières introduites. Grosso modo, il a un discours marxiste, enfin voilà, par la bourgeoisie, dans la façon de clore les disciplines. Il dit alors que il est absolument nécessaire pour un photographe de savoir composer littérairement, écrire la légende de sa photographie. Puis il dit, et réciproquement, il serait quand même extrêmement important que les écrivains sachent faire des photos. Quand on a, après cette magnifique exposition sur Claude Simon à la BPI, quand on a Claude Simon dans la tête, on comprend parfaitement ça. Moi je ne peux rien faire si je ne fais pas moi-même les images. C'est-à-dire, grosso modo, je fais des images, je fais des photographies. Donc, qu'est-ce que c'est faire une photographie quand on n'est pas photographe professionnel? Je ne suis pas un photographe, mais je fais des milliers de photographies, des dizaines de milliers de photographies. Je passe autant de temps avec le stylo qu'avec le scanner ou l'appareil photo. La chose principale pour moi, qui est encore très limitée par rapport à un photographe, c'est la question du cadrage et ensuite, bien sûr, la question du montage. Dans le cadrage, je vais à Florence, je retrouve la fresque de Fra Angelico très connue, je m'aperçois qu'il y a autre chose, je le photographie. Cette photographie qui donc a changé, donc on est vraiment dans la question du point de vue. On change le cadrage. Et le cadrage, c'est une autre façon, de faire une citation. Tu vois ? Je fais donc une photographie, un certain cadrage, une certaine quantité d'images, je fais un montage, j'écris le texte. Écrivant le texte, je m'aperçois qu'il faut retourner et qu'il faut encore faire d'autres types de cadrage. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt un aller-retour entre les exigences de l'image elle-même, de la façon, parce qu'au bout du compte, ça devient un livre. Donc un livre, il y a peu de photos et il faut, s'il y en avait trop d'ailleurs, ça ne serait pas bien non plus. Il y a beaucoup de gens qui disent mets toutes tes photos sur Internet et puis ça sera bien. Non, parce qu'il faut choisir, il faut trancher, il faut monter. Donc, alors voilà, il n'y a pas de littérature sur le regard sans une pratique du regard. Or, la photo en est une, il y en a d'autres. Le film, par exemple.
On peut dire un mot des films que tu fais ?
Non, oui, enfin, j'ai fait des films, mais par exemple, là récemment, j'ai fait. Il m'est arrivé de faire des films pour des circonstances, comme, pas exactement comme celle-ci où là on improvise, mais pour des conférences où il me semblait que c'était beaucoup plus intéressant qu'il y ait derrière moi, au lieu de diapositives, de composer un film. Voilà, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que le grand modèle, c'est Claude Simon, d'une certaine façon. Je dirais, je sais pas, il y en a d'autres, mais c'est un très grand modèle. C'est très intimidant, parce que lui, il avait son appareil photo aussi, à part ses schémas, ses plans, etc. Donc, voilà, il faudrait un historien de l'art qui lise Dupin, hein. Quand vous parlez de Dupin aux historiens de l'art, vous ne connaissez pas ? Oui, il faudrait des écrivains qui sachent faire des photos aussi belles que Claude Simon.
Ou des photos, quelquefois pas aussi belles que celles de Claude Simon, mais qui jouent un rôle dans le texte. On pense à Sebald, par exemple.
Oui, Sebald, oui. Mais d'ailleurs, dans la production littéraire contemporaine, puisque récemment, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est Le Guyotat tout à fait illustré, c'est Olivier Cadio. Mm. Donc, bien sûr, c'est quelque chose de...
L'impression qu'on en a besoin, quoi, que le livre seul, peut-être, appelle... il y a une espèce de... Le tropisme.
Mais est-ce qu'on peut parvenir à toi un petit peu ?
On va bientôt terminer. Hein.
Non. Ben, c'est-à-dire par rapport. Bon, moi, j'ai, comme tu sais, j'ai beaucoup aimé, j'ai écrit sur ton livre Petite Nuit, mais on va peut-être pas parler de ça. Est-ce que tu peux, toi, parler de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est complètement. Dans l'élément littéraire et qui se retrouve à écrire un Monet, quoi. C'est magnifique. Mais c'est pas un Monet, justement, comme je le disais tout à l'heure, un peu rapidement, des écrivains qui vont dire, je pense que Monet, c'est très beau, parce que c'est bien. Toi, tu as vraiment travaillé très, très longtemps, et puis il est poli. Dans l'auteur comme producteur, Benjamin dit qu'il faut que l'écrivain soit polytechnique.
Soit polytechnique.
Et ça, c'est un livre polytechnique.
Bon, alors c'était très rapidement, c'était une commande complètement, pour moi, complètement imprévisible et presque privée de sens parce que je ne connaissais pas l'impressionnisme. Ou ce que je connaissais de Monet, c'est ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire ces reproductions presque redondantes, presque assommantes qu'on voit dans les chambres d'hôtel partout. On ne peut pas aller nulle part sans avoir des coquelicots, des voiliers, etc. Donc bon, c'était un peintre qui ne m'avait jamais particulièrement retenu. Et donc j'ai cette commande de la part de Hazan. Je m'interroge beaucoup. C'était un moment où j'étais journaliste. Le roman, j'avais presque tiré un trait dessus. Et cette commande m'intéressait parce que ça me permettait de rompre quelque temps avec Libération, où c'était, comme tous ceux qui ont fait du journalisme le savent, la guerre permanente. Et donc je me dis, bon, je vais m'arrêter un petit peu, je vais faire ça. Mais j'hésite et j'en parle à quelques amis en leur demandant leur avis. Et je me souviens très bien que Dominique Fourcade me dit, bon, il se rendait compte que je ne connaissais pas vraiment l'impressionnisme, il me dit, tu ne perdras pas ton temps si tu passes un an avec un génie. Bon, je me dis, oui, très bien. Bon, lui, peut-être qu'il avait passé un an avec les écrits de Matisse. Non, j'ai mis 7 ans. Mais bon, je me suis dit, un an. Voilà. Bon, après ça, évidemment, ça a tourné tout à fait autrement. Il y avait, et je crois que ce qui était complètement pour moi presque impossible au début, c'était d'une part de raconter justement une histoire, l'histoire d'un homme, à une époque, il faut voir d'où viennent les gens de ma génération, hein, c'est-à-dire quand même les interdits concernant... l'auteur, le biographique, etc. Bon, ensuite, on a dépassé tout ça, mais il y avait quand même une espèce d'injonction très forte à ce sujet-là. Donc, la biographie, déjà, c'était un problème. Et ensuite, comment parler de la peinture ? Bon, il se trouve que ce qui a tout arrangé, en quelque sorte, c'est que Monet, on ne peut pas dire qu'il ne fait qu'un avec sa peinture, mais Monet, on ne le comprend que quand on va dehors, quand on voit où il se mettait pour peindre. Et ça a donc été une espèce d'expérience très étrange pour moi d'aller dehors pour comprendre ce qu'était la peinture. Voilà, ça m'a pris un temps fou, parce que quand on est dehors, et ça c'était l'expérience de Monet, quand on est dehors, on est complètement perdu. Hein. Toute sa vie, c'est une expérience d'égarement, et d'essayer de maîtriser cet égarement. Et donc, évidemment, j'étais comme lui. J'allais dehors, j'étais perdue. Mais en même temps, je savais que peut-être, en allant, en cherchant les expériences qui étaient les siennes, j'allais commencer à comprendre la peinture. Voilà. Donc, c'est un itinéraire très particulier. Après ça, il y a des gens qui m'ont dit, bon, ben voilà, maintenant, je ne sais pas, tu vas faire Berthe Morisot. Non, non, pas possible. On fait ça une fois, on a trouvé... d'une manière très étrange. Je crois que pour comprendre Monet, en gros, puis je vais en arrêter avec ça, je crois que pour comprendre Monet, c'est pas en regardant les barques d'Argenteuil, enfin, si belles soient-elles, ça peut être en regardant les séries, mais à condition de voir exposer l'intégralité d'une série. De temps en temps, il y a une exposition comme ça, où on voit, je sais pas, 15 meules, 15 cathédrales, bon. Là, on commence à comprendre quelque chose, mais je crois que là où on a une véritable expérience de ce qu'a pu être celle de Monet, c'est quand on va à l'orangerie, quand on va voir les grands panneaux des nymphéas, ou encore quand, pardon le jeu de paume, ou encore quand on voit ces grands panneaux, par exemple, il y en a à New York, ou il y en a à Bâle, il y en a à Zurich, et là, on se trouve devant quelque chose qui est une expérience physique de la peinture, et on se rend compte que voilà, la peinture, c'est aussi ça. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps pour comprendre ça. Ça m'a pris 7 ans. Bon, je ne faisais pas que ça, bon, mais quand même. Voilà. Je réponds à ta question, et je crois que maintenant, nous allons pouvoir nous arrêter. Parce que nous avons, il y a autre chose que nous.
Non, non, tu n'as pas répondu à ma question.
Si, si, parce j'ai répondu
fait,
à ta question.
Donc moi, je vais répondre à la question que je pose. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce qui est, tu as dit, j'ai fait un trait sur le roman tout à l'heure. Mm. Ben, c'est un très bon choix, très bien. Mais tu n'as pas fait un trait sur l'écriture.
Ah non.
Donc c'est ça qu'on trouve dans ce livre et aussi dans les autres, celui sur Pascal par exemple, c'est-à-dire ce mélange de précision, donc on pourrait dire documentaire, de très grande modestie par rapport à ce dont on parle. Et en fait c'est entièrement, moi je ne dirais pas que c'est fictionnalisé, non, tu accepterais le mot lyrique, non, je ne sais pas s'il faut dire lyrique, parce que tu me permets de lire les 5 dernières lignes. Quand le cercueil touche le fond du caveau, il s'agit donc de la Monet, l'enterrement de Monet, Clémenceau se retourne brusquement et redescend vers la route où l'attend sa voiture. Certains disent qu'il pleurait. Tenez-vous droit, levez la tête et envoyez votre pantoufle dans les étoiles, écrivait-il à Monet le 4 juillet. La pluie continue à tomber doucement, légèrement, sur les coteaux, les grands peupliers muets, l'eau du bassin désert, les champs, la Seine coulant vers la mer, dans le paysage qui s'efface. Donc c'est un phrasé, je trouve, qui est à la fois...
Je crois qu'on a tort de considérer que le roman est la forme d'écriture, c'est l'apothéose de l'écriture, c'est l'absolu. Il y a une grande fixation sur le roman. Bon, moi, j'ai essayé. Finalement, je n'étais pas faite pour ça, je pense. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de rester dans la littérature, mais dans d'autres formes. Donc il y a eu la biographie, où il y a eu des essais. Et je dois dire que de plus en plus, c'est la question de l'essai qui m'intéresse. L'essai, bon, mot magnifique, hein. Donc on peut tout... Il y a une espèce de liberté possible, de grande liberté, de grande possibilité d'inventer. Et au fond, c'est ce que tu fais dans tes livres, qui ne sont pas des livres d'histoire de l'art, on va dire quoi, canoniques, ordinaires, etc., mais qui sont davantage, justement, du domaine de l'invention permanente, à partir d'un certain nombre d'objets. Bon, moi, quand je prends l'objet Pascal, j'essaye d'inventer quelque chose qui correspond à Pascal. Quand j'ai pris Monet, donc ça a été ça, mais le dernier livre que j'ai publié, c'était le 18e siècle, inventer une manière d'en parler. Voilà, on en est là tous les deux, donc on peut peut-être s'arrêter maintenant.
On peut juste conclure sur l'idée, pour revenir toujours à l'introduction de Sylvie, du fait que c'est en prenant au sérieux, même s'il ne l'a pas fait lui jusqu'au bout, en prenant au sérieux la pratique de Benjamin, mais aussi celle de Krakauer, qui est un merveilleux auteur, enfin vraiment quelqu'un qui savait tellement bien écrire son regard, que Adorno a écrit ce texte magnifique qui s'intitule « L'essai comme forme », sous-entendu « L'essai comme forme littéraire ».
Voilà, merci.